Place Info.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les débats de l'écho sur France Info en partenariat avec le Cercle des économistes. Chaque dimanche, débat autour des sujets qui ont ou vont marquer l'actualité économique et sociale. Au programme ce soir, deux questions. Renault est-il sauvé après la présentation de son plan d'économie vendredi? Et puis, déconfinement et reprise, comment réamorcer rapidement la pompe de l'emploi? Avec nous pour débattre, Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attac, et Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir à tous les deux. Alors commençons, si vous le voulez bien, par le sauvetage de l'automobile française. Mardi, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu à Étaples, dans le département du Pas-de-Calais, à l'usine de l'équipementier Valeo, pour annoncer un vaste plan de 8 milliards d'euros afin de soutenir l'industrie automobile. Et quelques jours après, vendredi, Renault présentait un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans, avec notamment 4600 suppressions d'emplois en France. Alors pas de licenciements secs, mais uniquement des départs volontaires, des départs à la retraite non remplacés ou des reconversions à l'interne. Mais Renault est-il pour autant sauvé d'affaires au sein de l'alliance avec Nissan, Mitsubishi? Christian de Boissieu, est-ce qu'on peut parler de plan de la dernière chance pour la marque aux losanges?
Écoutez, c'est pas la première fois qu'on parle de ce genre de plan. Dis donc, Renault va pas bien, n'allait pas bien avant la crise sanitaire actuelle. N'a pas fait sa mue pendant que PSA faisait les ajustements nécessaires depuis quelques années. Vous avez eu la période de Carlos Ghosn avec une sorte de folie des grandeurs. Et avant même la crise actuelle, Renault tournait pas bien. C'est-à-dire aujourd'hui, Renault tourne à 60% de sa capacité de production, a affiché des pertes pour 2019. Et donc, il y a certainement un gros problème d'ajustement structurel et de redémarrage de l'alliance, parce que Renault n'est pas tout seul, fonctionne avec Nissan, Mitsubishi dans cette alliance qui a posé des tas de problèmes et à mon avis qui doit vraiment être améliorée. Alors, deux remarques pour terminer sur ce sujet. Comment s'y prendre pour faire les ajustements requis? Bon, ça, je pense qu'on va en parler ensemble. Oui. Et puis, vous parliez du calendrier. Je trouve que tout ça intervient dans un contexte compliqué, parce que d'un côté, l'État apporte 8 milliards d'euros à la filière automobile dans son ensemble. Renault est en train de négocier un crédit bancaire garanti par l'État de 5 milliards. Et à ce moment-là, deux jours après, annonce des mesures sociales compliquées, difficiles à accepter. Donc, je dirais politiquement, socialement, ça me paraît très compliqué.
Oui, le chemin s'annonce difficile. Aurélie Trouvé, justement, les syndicats, la CFDT notamment, parlent de casse de l'emploi. Est-ce que le mot est approprié, sachant encore une fois qu'il n'y aura pas de licenciement sec, hein, aucun ouvrier ne va se retrouver à la rue dans cette affaire?
Alors, bonjour à tous et toutes. Oui, pas ni licenciement sec, certes, mais c'est quand même de la destruction de l'emploi dans certains territoires, là où il va y avoir de la fermeture de sites, hein. 4600 emplois en France sont tout détruits, mais aussi ceux des sous-traitants, hein, qui sont touchés dans des régions où parfois les taux de chômage sont déjà très importants. Je pense au site, par exemple, de Maubeuge, voilà. Et puis, je voudrais poursuivre sur ce que dit
Alors,
Christian.
Alors, le président, pardon, Aurélie Trouvé, le président, oui, de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi l'a bien rappelé. Aujourd'hui, le site de Maubeuge ne sera pas touché. Il y aura, disons, un déplacement de production sur Douai. Mais il veut faire de ce pôle Maubeuge-Douai un pôle d'excellence. Donc, encore une fois, pas de licenciement direct.
Alors, il faut l'espérer d'abord, hein, et puis donc il y a eu d'ailleurs une mobilisation très forte, hein, 8000 personnes qui se sont rassemblées justement pour face à ces inquiétudes-là. Et puis de toute manière, c'est 5000 emplois détruits en France, hein. Et puis donc pour poursuivre ce que disait Christian de Boissieu, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a d'abord des erreurs aussi de gestion, de politique industrielle. C'est aussi Renault des délocalisations de la production dans d'autres pays. Depuis 10 ans, c'est 25 000 emplois qui sont détruits en France, mais qui alimentent en plus, cette baisse de la production alimente le fort déficit de la balance commerciale française en véhicules neufs. On importe beaucoup plus qu'on exporte. Et vous savez qu'une partie majoritaire aujourd'hui de la production de Renault est à l'étranger. Et cette production, parfois, est réexportée, ces automobiles, vers la France. Donc on a aujourd'hui un enjeu de relocalisation également. Et là, moi, j'interroge la responsabilité de l'État français, qui est quand même premier actionnaire de Renault, 15%
de part. On va y revenir, Aurélie Trouvé, sur ce point et sur le rôle de l'État actionnaire, qui a encore 15%, hein, de Renault. Christian de Boissieu, quelle est la stratégie de long terme, finalement? Quels nouveaux investissements pour Renault? Pour l'instant, nous n'avons que le plan d'économie, hein. Rien de concret, vraiment, sur le plan stratégique, finalement.
Il y a une stratégie de long terme qu'il faut développer en liaison avec le plan annoncé par Emmanuel Macron pour la filière automobile. C'est tout ce qui concerne l'essor de la voiture électrique, d'une production plus écologique, etc. Donc Renault va être dans ce contexte-là. Il peut pas rester et doit pas rester à l'écart. Une deuxième option stratégique, à mon avis, c'est de vraiment de remettre à plat. Je dis pas remettre en cause. Je dis remettre à plat la stratégie de l'alliance, c'est-à-dire l'alliance avec les producteurs japonais Nissan, Mitsubishi, parce que on n'y voit pas très clair et les ajustements paraissent indispensables. Troisièmement, il faut revenir à une utilisation de la capacité de production qui soit autour de 80% et pas 60%. Alors le débat, c'est comment y arriver entre nouvelles technologies, gestion des hommes et des femmes, etc. Moi, je trouve, je l'ai dit il y a deux minutes, je trouve que tout ça est à la fois très important, inévitable sans doute, mais ça m'a paru un peu précipité dans le calendrier, quelques heures ou quelques jours après ce que l'État a annoncé pour la filière automobile, et puis le débat qui va intervenir mardi, mercredi, et à la négociation de ce crédit garanti par l'État de 5 milliards d'euros qui permet à Renault de rester la tête un peu en dehors de l'eau. Il y a un télescopage qui me paraît malvenu, voilà.
Alors, la stratégie, c'est au successeur de Carlos Ghosn qui arrivera le 1er juillet, hein, Luca De Meo, qui a été débauché chez Fiat à grands frais, d'ailleurs. C'est à lui d'écrire cette nouvelle stratégie. L'actuel patron de Renault, Jean-Dominique Senard, chiffre de 10 à 12 milliards d'euros les investissements nécessaires pour relever tous ces défis, notamment l'électrique, mais évidemment, Renault ne peut pas faire tout ça seul, donc il faudra vraiment renforcer cette alliance avec Nissan Mitsubishi. Aurélie Trouvé, l'État français, on le disait, détient aujourd'hui 15% de Renault. Quel doit être le rôle de l'État actionnaire dans les années à venir ?
Eh bien, c'est de mon point de vue, hein, c'est d'impulser une politique industrielle avec de la planification, de la reconversion productive, associant les syndicats, les représentants de salariés et donnant la priorité aux objectifs sociaux et écologiques. Donc jouer sur effectivement le fait qu'il y a des parts de l'État dans l'entreprise, voire les augmenter, et puis jouer aussi sur la conditionnalité des aides, que cette conditionnalité soit sociale et écologique, par exemple non versement des dividendes ou des rachats d'actions au moins en 2020, mais également, ça a été dit, hein, essayer de cibler sur certains modèles propres et accessibles à tous. Et puis je finirai en disant une chose, c'est quand même qu'il faut aussi une vision au-delà du secteur automobile. Je pense pas qu'on sauve les emplois uniquement en pensant qu'il faille relancer les achats d'automobiles en France, qu'elles soient propres ou non, et d'ailleurs que la production soit relocalisée ou non, hein. C'est-à-dire que l'auto, de mon point de vue, c'est un moyen de déplacement dépassé, qui est coûteux, dangereux, polluant. Il faut repenser les mobilités.
Mais enfin, aujourd'hui, et surtout, qui crée beaucoup d'emplois, qui maintient beaucoup d'emplois.
Oui, c'est pour ça qu'il faut les maintenir avec une relocalisation, etc. Mais il faut aussi penser à de la reconversion productive. Oui. En assurant pour les travailleurs la reconversion professionnelle, le revenu, l'emploi, dans des secteurs d'avenir que sont les transports publics, les services publics, etc.
Nous nous arrêtons là pour cette première partie des débats de l'écho. Autre question à suivre dans une minute. Déconfinement et reprise, comment réamorcer rapidement la pompe de la création d'emplois ? À tout de suite.
Dans un instant sur France Info avec vous Emmanuel Cuny, effectivement la suite des débats de l'écho avec Christian de Boissieu et Aurélie Trouvé. Il est 17h50, le fil info, Armand Peyrouloga.
Ils vont pouvoir entrer dans la Station Spatiale Internationale d'ici une demi-heure. Les deux astronautes américains sont bien amarrés à l'ISS à bord de la capsule SpaceX. Elle est arrivée sur place un peu avant 16h30 avec 5 minutes d'avance. Renault envisage de céder le site de Caudan dans le Morbihan, site qui emploie 385 personnes en CDI. C'est ce que déclare aujourd'hui le patron du groupe automobile. Jean-Dominique Senard assure en revanche qu'il n'a pas l'intention de fermer l'usine de Maubeuge dans le Nord, où des milliers de personnes ont manifesté hier. Un siège sur deux bloqué dans les TGV, ce sera fini dès mardi et dès la mi-juin, 100% de l'offre sera commercialisée. Tous les trains seront remis sur rail d'ici le 24 juin. Ce sont les annonces aujourd'hui de Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport. Il rappelle que le masque reste obligatoire dans les transports en commun. Le Premier ministre espagnol veut lui prolonger l'état d'alerte jusqu'au 21 juin à cause du coronavirus. Ce dispositif permet de limiter la circulation des personnes. Au Royaume-Uni, 113 décès supplémentaires ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Aux États-Unis, les manifestations violentes continuent dans les grandes villes 5 jours après la mort de George Floyd et malgré les couvre-feux à Minneapolis, le corps d'un homme a été retrouvé ce matin près d'une voiture brûlée. Et puis la réouverture du parvis de Notre-Dame de Paris, c'était en début d'après-midi, plus d'un an après l'incendie de la cathédrale. Les opérations de nettoyages sont terminés pour éliminer les résidus de plomb autour de Notre-Dame.
France Info. Et tout est plus clair. Les débats de l'écho avec Serre France, conseil expertise comptable pour la performance des créateurs et chefs d'entreprise. Rendez-vous sur serrefrance.fr.
Deuxième partie de ces débats de l'écho, donc sur France Info, en partenariat avec le Cercle des économistes et nos deux invités ce soir, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, et Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attaque. Le PIB de la France, la richesse créée par le pays, a chuté de 5,3% au premier trimestre, selon l'INSEE. Chômage, plus 22% en avril, 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires dans la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui sont réellement sans travail. Alors comme une fatalité, on s'habitue à cette litanie de chiffres, tous plus mauvais les uns que les autres depuis le début de la pandémie de coronavirus. Mais n'y a-t-il pas quand même une source d'espoir? Le baromètre annuel publié par le cabinet EY cette semaine montre que la France a pris, alors certes en 2019, la place de premier pays européen en termes d'attractivité des investisseurs étrangers, des projets qui vont être revus avec la crise, mais 65% de ces projets seraient maintenus. Aurélie Trouvé, est-ce qu'on peut voir quand même quelques lueurs d'espoir dans le brouillard dans lequel nous naviguons aujourd'hui?
Oui, à condition, de mon point de vue, de changer radicalement de politique menée par le gouvernement. En l'occurrence, pour l'instant, les perspectives sont de toute façon très sombres. D'abord, vous savez, vous l'avez dit, hein, il y a une hausse enregistrée qui n'a jamais été aussi forte, qui est de 20% au mois d'avril. Le chômage atteint des records historiques. Et surtout, en plus, ce sont ceux qui ont des petits boulots qui l'ont perdu. Hein, intérimaires, fin de CDD, intermittents, pigistes, etc. Mais là commencent les plans de licenciement des emplois stables, en fait, parce que les entreprises sont en grande difficulté, en particulier. Et puis, ça sera de l'emploi plus précaire, hein, qui sera... il y aura des embauches plus précaires parce que les entreprises veulent avoir de la main-d'œuvre moins chère dont elles peuvent se débarrasser plus rapidement. Et puis, par ailleurs, il y a une baisse du soutien de l'État prévu au chômage partiel. Donc là aussi, dans les secteurs qui ont beaucoup de salariés en chômage partiel actuellement, comme il n'y aura pas la même... à partir du mois de juin, l'État ne va pas compenser de la même façon, beaucoup moins, et ben on risque aussi d'avoir là des licenciements secs. Puis dernier point là-dessus, je pense, et on arrivera tout à l'heure aux solutions, mais je pense que par ailleurs il va y avoir un énorme problème, surtout du côté de la demande, parce que les ménages vont avoir tendance à épargner ou moins consommer, parce qu'il y a une baisse des revenus liée notamment au chômage, donc ça fait une baisse de la production parce qu'il n'y a plus de débouchés, donc du chômage. Enfin, c'est une vraie spirale dépressive dont il faut absolument sortir par un changement total de logiciel politique.
Alors Christian de Boissieu, comme le dit Aurélie Trouvé, beaucoup d'entreprises vont vouloir balancer entre guillemets beaucoup d'emplois et vont profiter de cette crise pour le faire.
Mais d'abord, il va y avoir des faillites d'entreprises. Avant même de parler de la survie des entreprises, il y en a un certain nombre qui vont malheureusement aller au tapis et ça va faire des emplois perdus. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense qu'il faut accélérer la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes publics. Par exemple, sur les plus de 300 milliards d'euros de crédits bancaires garantis par l'État, en fait, il y a vraiment du retard à l'allumage dans la mise en œuvre de ce programme de crédit garanti par l'État. Alors, la question des TPE, des PME, c'est principalement une question de trésorerie. On peut mourir pour des raisons d'illiquidité qui deviennent rapidement des problèmes d'insolvabilité. Donc, moi, dans les mois qui viennent, je peux pas être optimiste parce que après le chômage partiel, il y aura le chômage tout court et on le voit déjà se pointer.
Mais ces investisseurs-là qui disent au cabinet EY, on garde 65% de nos projets, ce sont des investisseurs étrangers qui mettent de l'argent dans les entreprises françaises.
Non, mais j'écoute, regardez les ordres de grandeur, c'est pas ça qui va compenser la récession de moins 8 ou moins 10% qu'on va avoir en France en 2020. Il faut quand même raison garder. C'est-à-dire que c'est une hirondelle qui fait pas le printemps ou l'été. C'est une bonne nouvelle parce que la France reste attractive, etc. Mais je vous garantis que ça ne va pas empêcher la montée du chômage dans les mois qui viennent. Et ce qui me préoccupe, moi, aussi dans ce contexte très morose, inquiétant même, c'est le sort qui va être fait aux jeunes. On va être comme en 2009, mais peut-être encore plus qu'en 2009, après la crise de 2008, dans un contexte où les gens qui sortent avec un diplôme et a fortiori sans diplôme vont avoir beaucoup de mal à entrer sur le marché du travail. Regardez l'arrêt des stages, regardez les problèmes d'apprentissage. On ne peut pas avoir une génération, une cohorte sacrifiée. Donc moi, j'attends des mesures de l'État aussi ciblées sur les jeunes.
Aurélie Trouvé, concrètement, sauvetage de l'emploi, quelle méthode de la part de l'État? Information, alternance, apprentissage dont parle Christian de Boissieu, fiscalité peut-être sur le travail aussi. Quel doit être le rôle de la force publique aux côtés des entreprises?
Mais en fait, il va y avoir quelque part, grosso modo, deux façons de faire. Soit l'État continue avec sa politique de l'offre de baisse des charges d'entreprise en flexibilisant, précarisant l'emploi, mais alors il y aura un problème de demande en face. Ou alors il fait une vraie politique de la demande, celle dont je parlais tout à l'heure, et ça veut dire effectivement, par exemple, un vrai maintien notamment des plus bas revenus. D'abord parce que c'est une mesure de justice sociale dans la crise qu'on connaît, mais parce que les plus bas revenus, c'est ceux qu'on appelle les personnes avec la plus forte propension à consommer. C'est-à-dire que vous prenez les plus bas revenus, si vous leur donnez par exemple 100 euros de plus, ce sont ceux qui vont les consommer le plus rapidement et non pas les épargner. Donc il faut jouer sur les plus bas revenus en rehaussant les minima sociaux comme le RSA, faire en sorte d'ailleurs que tous les bénéficiaires potentiels du RSA le touchent vraiment, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, renforcer le filet d'assurance chômage, à l'inverse de ce qu'a fait le gouvernement récemment, rehausser le SMIC et les bas salaires, et notamment dans la fonction publique, on les applaudit tous les soirs, mais les premières de corvée, les aides-soignantes, les infirmières, oui, les institutrices, et bien qu'on rehausse aussi leurs revenus. Et puis je finirai par une politique aussi sur l'offre d'emploi, effectivement, l'incitation à l'embauche par des emplois aidés, notamment de qualité, des emplois aidés pour les jeunes notamment, c'est vrai qu'il ne faut pas sacrifier une génération, et puis dans les services publics, dans la transition écologique.
Christian de Boissieu.
Oui,
Christian de Boissieu, rapidement sur cette question du SMIC, très vite.
Je pense depuis le début qu'il faut marcher sur les deux jambes, l'offre et la demande, et que c'est la seule manière d'essayer de limiter la casse économique et sociale. Alors vis-à-vis des jeunes, il faut regarder s'il ne faut pas réintroduire ce qu'on a eu dans le passé à certains moments, des primes à l'embauche. Pour les jeunes qui sont dans les universités, dans les écoles, peut-être leur donner un an de plus pour trouver un stage sans partir de l'idée qu'ils doivent terminer leur année à la fin 2020. Allô, à la fin 2020. Sur la formation professionnelle, il y a une réforme de la formation professionnelle qui a été mise en place il y a un peu plus d'un an. Et je pense qu'il faut absolument
poursuivre la reconversion. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de ces débats de l'écho sur France Info.